avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, reportage aujourd'hui, françaises et musulmanes ou l'identité impossible. Elles ont entre 20 et 35 ans, tous les jours on leur demande d'être françaises, d'être musulmanes, d'être voilées, d'être libérées, pudiques, laïques ou encore vierges. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans leur famille, au travail, c'est sur elles finalement que reposent les débats les plus politiques, confisqués le plus souvent par des hommes. Mais elles, que veulent-elles au juste? Quelles pressions subissent-elles? Comment voient-elles leur avenir et où? Enquête, reportage auprès de celles que l'on entend si peu, indécises, partagées, divisées, unies en tout cas par une seule hantise, être récupérées et une même envie, revendiquer leur pluralité. À 3 mois des élections présidentielles en France, nous accueillons Charlie Dupiau, bonjour.
Bonjour.
Charlie, vous avez abordé ce sujet via les réseaux sociaux au départ. Les discussions sont très tendues. C'est d'abord là que ces femmes s'expriment. Vous avez voulu revenir à la vie réelle et vous avez rencontré pour ce reportage plusieurs jeunes femmes dans toute la France, chacune avec son parcours, avec sa vision, avec sa religion, c'est ça? Et d'abord, Amida, 29 ans, à Marseille.
Elle a grandi dans une famille de 7 enfants, peu pratiquante, selon ses propres mots. Elle a travaillé successivement comme téléconseillère, serveuse, aide-soignante, vendeuse, avant de se marier et de se consacrer à son fils. Avoir sa chevelure teinte en blonde aujourd'hui et son pantalon rouge près du corps, on ne se douterait pas qu'un jour, elle a porté le voile.
Bleu marine à pois, vert kaki avec des cœurs, tout, de toutes les couleurs. C'est des écharpes à la base et puis je les mettais en voile parce que j'aimais bien m'habiller un peu fashion. Parce que c'est vraiment compliqué de s'habiller correctement avec le voile si on ne veut pas ressembler à n'importe quoi, à une diseuse de bonne aventure.
Vous aviez quel âge au moment où vous l'avez porté?
J'avais en 2010 23 ans. Je l'ai porté peut-être 4 ans. J'ai enlevé au départ mon voile pour aller travailler, puis je le mettais, je l'enlevais dans les transports. À cette époque-là, j'étais vendeuse en boulangerie. Mon employeur ne savait pas que je portais le voile parce que je suis restée une longue période sans avoir de travail aussi. Quand on ne veut pas enlever son voile, on n'a pas de travail en France.
Vous avez l'air assez amère en disant ça.
Ben ouais, je suis amère parce qu'on peut le tourner de toutes les façons. La France n'accepte pas une partie de ses Français. Je suis française et la France ne m'accepte pas à part entière. Il faut que j'enlève une part de moi, ma part religieuse, pour être acceptée. Et pour être une française comme il le faut. Je me sentais schizophrène, ouais. Vous savez, la pause déjeuner, qui je suis finalement? Qui je suis? Est-ce que je mets mon voile parce que je suis plus au travail, mais finalement je suis dans le quartier, je vais manger? Qui je dois être? Vous savez, on ne sait plus qui on doit être. Moi, ça m'a rendu dingue et je ne pouvais plus continuer comme ça. Et finalement, mais pour l'enlever, le voile, je ne l'ai pas enlevé du jour au lendemain. Puis je mettais finalement des voiles en turban sur la tête. Je me rhabillais un peu normalement en laissant mon turban. Puis après, je découvrais un peu mes bras, toujours avec mon turban. Vous voyez, c'est une transition que j'ai faite dans le temps. Parce que c'est pas facile non plus d'assumer ça aux yeux de la famille, quand on vit dans une cité. Bon, moi, je vis plus dans une cité, ma mère l'était à l'époque. C'est pas simple du tout. Par exemple, il y a une cousine à ma mère qui était une fois venue dire « Ta fille croit que c'est un jeu, le voile, on le met ou on le met pas, c'est une fois dans la vie. Donc ta fille, elle peut pas jouer avec comme ça, il faut qu'elle se décide. » Bon, moi, ça m'a pas plu, évidemment, parce que qui es-tu pour me dire ce que je dois faire, quand, comment? Enfin, c'est n'importe quoi. Si je l'enlève, ça ne concerne que moi, finalement. C'est mon rapport à Dieu. Puis il y a le truc aussi de tu portes le voile, donc il faut absolument que tu fasses ta prière. Est-ce que toi, tu fais la prière? Est-ce que toi, tu portes le voile? Est-ce que toi, tu fais quelque chose pour Dieu? Mais c'est lourd. C'est lourd des deux côtés, voilà. Du côté de la société française qui nous accepte pas et du côté des musulmans qui nous veulent parfaits. On a l'impression qu'il y a une catégorie de musulmans qui est parfaite. Et dès qu'ils ont acquis quelque chose, eux, leur propre personne, ils voudraient que tous les musulmans soient comme eux. Ils sont intransigeants, intolérants, et puis moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Une fois, je vais avec une amie, on mange un sandwich, et puis moi, je prends du poulet ou je ne sais pas quoi. Puis, oh, elle me regarde, mais vraiment comme si j'avais fait un truc monstrueux. Quoi, tu manges la viande halal? Ouais. Oh là là, mais c'est haram, c'est péché, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai jamais mangé de la viande comme ça, oh là là. Moi, ça m'a blessée. C'est ça qui me dérange en fait, c'est le manque d'intelligence religieuse, le manque de savoir. Et c'est un des grands mots de notre communauté musulmane. Moi, ça me dérange. On voit une fille passer dans la rue, elle est maquillée, elle porte le voile. Oh, regarde-la, franchement, elle fait honte à tout le monde, elle nous fait honte, c'est quoi ce délire, machin. Toi, tu te fais honte avec ta bouche, tais-toi. Le problème d'Internet, c'est que tout le monde a droit à la parole. Il y a beaucoup de pages de confessions entre sœurs qui s'appellent exactement comme ça. Donc c'est des nanas qui viennent juste raconter leur vie et demander des conseils. Moi, je suis sur une page comme ça, avec des mamans, où il n'y a pas du tout d'islam entre nous. Il y a de Jennifer, il y a de tout, quoi. Et tout va bien, on ne se juge pas. Mais alors, quand c'est une page musulmane, il faut bien s'accrocher, parce que la nana qui vient de demander des conseils, il faut être sûr qu'elle va se faire lyncher. Ça montre qu'il y a un vrai problème. Les femmes, hein, retournent tout sur la femme. Tout est de la faute de la femme. Moi, j'en ai ras-le-bol, parce que ces gens-là, ils mettent souvent une photo de profil avec un truc écrit en arabe. Elles ont un nom, je ne sais pas quoi. C'est toujours des noms musulmans, on va dire, ou qui représentent la religion. Couvre-toi comme ça, c'est comme ça qu'il faut se couvrir. Moi, je suis une bonne musulmane parce que j'ai la bonne tenue, et je m'appelle Oum machin, et j'ai ma vitrine sur Facebook. Moi, je suis musulmane, et ces personnes-là, elles me nuisent, en fait, et j'ai pas envie de les voir.
Moi, j'ai vu justement des filles, par exemple, parler de leur virginité, du fait qu'elles l'avaient perdue avant le mariage, et se sentir mal par rapport à ça, se sentir sale, c'était leur mot. Et beaucoup de femmes leur répondaient qu'elles avaient tort, qu'il n'y avait plus rien à faire pour elles. Rien de tout ça n'était bienveillant.
Je comprends pas tout ça. Il n'y a rien de musulman dans tout ça. Moi, je ne me suis pas mariée vierge. J'ai eu mon premier petit copain à 19 ans. Puis j'étais aussi sa première. On a fait l'amour ensemble et c'était génial. Et c'est la vie. Et puis je ne me sens pas sale pour autant. Puis quand tu arrives à 25 ans, excuse-moi, je remercie Dieu de ne pas être vierge. Quoi, parce qu'il y a un problème, sinon il faut arrêter de déconner. Par contre, des filles qui se font passer pour vierges, j'en connais. Hein. C'est dans ma génération. Et puis la génération d'après, je ne sais pas ce qui va lui arriver en fait. Parce que ce n'est pas anodin.
Voilà le témoignage d'Amida, 29 ans. Elle évoque Internet, les réseaux sociaux, Charlie Dupiot.
Oui, les mots, ils sont très durs, accusateurs, sans aucune autre option que la pudeur. À une femme qui écrit qu'elle songe à enlever son voile, une autre répond « Il ne s'agit pas que de toi, mais aussi de celles qui te suivront. En tenant bon, tu leur montreras que c'est le seul bon chemin. » Une autre lui répond « Surtout, ne le retire pas. » Et la plupart des messages vont dans ce sens. Ils sont dogmatiques, emplis de certitude. La virginité aussi, Amida en parlait, est une question qui n'est plus du tout confidentielle, mais qui déchaîne dans les commentaires. Par exemple, tu te sens sale parce que tout simplement tu es sale. Donner sa virginité au premier venu et coucher avec un homme qui n'est pas ton mari fait de toi une fille sale. C'est tout à fait normal de te sentir comme ça après avoir commis un tel acte.
Et d'ailleurs, certaines femmes sur ces forums en France peuvent conseiller à celles qui ont eu des rapports hors mariage de recourir à une opération chirurgicale pour redevenir vierge en apparence.
Oui, on appelle ça une hyménoplastie. En fait, c'est une opération pour reconstruire son hymen et s'assurer qu'il puisse à nouveau saigner lors de la nuit de noces, même si c'est évidemment factice. J'ai parlé à plusieurs chirurgiens qui pratiquent cette opération en région parisienne. Ils m'ont dit que les demandes pour ce genre d'opération étaient en hausse. Des jeunes femmes qui souvent s'apprêtent à se marier et qui souhaitent faire une croix sur leur passé. Et on voit qu'elles y sont aussi encouragées sur les forums communautaires, entre autres.
Ouais, sur Internet. Et une de ces femmes s'expose justement sur les réseaux sociaux.
Elle s'appelle Faiza Ben Mohamed. Elle vit à Nice et on l'a beaucoup entendue cet été pendant l'affaire dite du burkini. Elle a été l'une des premières à dénoncer l'arrêté municipal contre ce maillot de bain intégral. C'était un arrêté qui était d'abord pris par le maire Les Républicains de Cannes. Elle avait immédiatement posté le texte de cet arrêté sur les réseaux sociaux pour le dénoncer. Alors je vous en lis le début. L'accès aux plages et à la baignade sont interdits à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité. Faiza Ben Mohamed était alors porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud.
Alors, j'ai 31 ans, mes parents sont d'origine marocaine, je suis franco-marocaine aussi, j'ai deux petits garçons de 3 et 4 ans. Je suis divorcée, donc du coup, je les élève à moitié toute seule. Après, quand j'ai été porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud, pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir amener une autre image. En tant que femme très très libre, parce que quand vous avez en face de vous une personne comme moi qui n'est pas voilée, qui a grandi en France, qui a vécu en France, forcément, ça casse les clichés. Montrer qu'une femme musulmane, c'est pas que les couvertures de Marianne ou des couvertures de Valeurs Actuelles avec des femmes en niqab et pour faire peur.
Mais vous, vous ne portez pas le voile.
C'est pas quelque chose dont je ressens le besoin. Quand vous êtes voilée, vous ne pouvez plus mettre de jeans serrés, vous ne pouvez plus mettre de jupe, vous ne pouvez plus mettre de bikini à la plage. Vous pouvez, enfin, c'est tout un comportement derrière. Du coup, vous changez complètement votre mode de vie en réalité.
Vous vivez à Nice et cet été, vous vous êtes positionnée sur le débat autour du burkini qui a sévi notamment à Nice, mais aussi dans les villes alentours sur la Côte d'Azur. Alors à ce moment-là, vous avez été critiquée évidemment par les maires de droite de ces communes qui, eux, ont mis en place des arrêtés municipaux contre le burkini.
J'ai été très violemment critiquée. On m'a traitée d'islamiste, on m'a traitée de fondamentaliste, de jeune fille sectaire, de communautariste, de tout ce que vous voulez. Mais je trouve inadmissible qu'on puisse empêcher des citoyennes françaises d'accéder à certains lieux. Personnellement, je ne me vois pas du tout dans un burkini, ça doit être quelque chose de très inconfortable. La créatrice du burkini m'a offert un burkini bleu, blanc, rouge pendant l'été. Il est encore dans sa boîte, il servira sans doute jamais, en tout cas pas à moi. Je porte un bikini que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je crois aussi que c'est important que des filles comme moi puissent défendre la position inverse.
Vous avez déclaré à ce moment-là, je préfère mourir plutôt que de porter le burkini, mais je défends la liberté de le porter.
Il y a beaucoup de monde qui m'en a voulu d'avoir eu ce mot, je préfère mourir. C'est beaucoup les femmes qui me reprochaient d'avoir banalisé les théories selon lesquelles le voile n'est pas obligatoire et que du coup on pourrait être musulmane sans le porter et que du coup elles pensaient que je jetais un peu la stigmatisation sur elles qui elles par contre préfèrent mourir que de ne pas le porter. Ça m'a blessée parce qu'après voilà quand on vient vous traiter de traîner ou qu'on vient vous dire je sais pas ce que tu fais à la place de porte-parole d'une association musulmane, tu ferais mieux de retourner dans la rue ou de retourner sur les trottoirs ou des trucs comme ça, c'est violent, bien sûr c'est violent. Puis il y a tout le monde qui lit, donc forcément quand vous tombez sur un commentaire vous demandez de combien de personnes l'ont lu, depuis combien de temps ça tourne là. Et ça a été vraiment très très dur, je l'ai très mal vécu à la fin. Il n'y a pas que des intégrés qui ont réagi. Il y a des femmes qui me suivaient depuis un moment et tout sur les réseaux sociaux, parce que je m'agite beaucoup sur les réseaux aussi, qui me disaient « Ouais, mais là, t'as une aversion pour le voile, en fait, finalement, tu nous méprises. » Alors que pour moi, il n'y a aucune différence. J'ai le droit, moi, à titre personnel, de dire que j'ai pas envie de le porter. Je pense qu'elles devaient juste se dire que j'étais pas voilée parce que j'avais quelque chose qui m'en empêchait vraiment et tout, et que peut-être que professionnellement ou que... Et elles ont pas envisagé le fait que c'est parce que je veux pas, quoi.
Et ces femmes, donc, oui, vous traitez, j'ai lu ça, de traître, d'hypocrite, de collabo même. Ouais. Et vous avez posté d'ailleurs sur Facebook pour leur répondre « Je ne laisserai rien passer à ceux qui voudraient me voir évoluer selon leur modèle. »
C'est-à-dire que j'interdis toute critique de mon comportement, de mes choix personnels. Je leur laisserai rien passer, je leur interdis de venir me parler en privé pour me faire un prêche ou pour m'insulter. J'avais dit, c'est quand même bizarre de voir que celles qui me félicitaient pour me battre pour elles ne sont pas capables de se battre dans le sens inverse. Et ça m'avait gênée.
Votre histoire depuis cette polémique sur les réseaux sociaux a été récupérée par certains sites proches d'extrême droite, F de Souche, Boulevard Voltaire, comme la musulmane trahie par les siens.
Des milieux identitaires d'extrême droite, oui. Ça a été le coup de massue. Puis j'ai reçu plein de messages. Hein. Voilà, vous êtes contente, bien fait pour vous, retour à l'envoyeur, le boomerang, bien fait pour ta gueule, ça t'est revenu, ça t'apprendra la prochaine fois, tu réfléchiras. Jusqu'à aujourd'hui, je reçois encore des comme ça. Ça a illustré les thèses qu'ils énonçaient, alors que non. Parce qu'eux, ils partent du principe que c'est tous les musulmans qui sont comme ça et que voilà. Et en même temps, vous avez aussi l'impression d'avoir desservi votre cause.
Et vous vous sentez prise en étau entre deux côtés. D'un côté, les laïcars et de l'autre, une part. Radicale de la communauté musulmane.
Ils n'interfèrent pas dans ma vie. D'un côté ou de l'autre, si vous avez des radicaux, moi, ce n'est pas des gens que je côtoie, ce n'est pas des gens avec qui je me mélange, ce n'est pas des gens à qui je parle. Donc ça ne me dérange pas, en fait. Vous ne pouvez pas céder aux pressions que vous percevez, qui sont directes ou indirectes, mais vous ne pouvez pas céder à ça.
Faïza Ben Mohamed est aujourd'hui une femme meurtrie, mais debout. Cette non-alignée n'est plus aujourd'hui porte-parole de cette Fédération des musulmans du Sud.
Non, plus depuis deux mois. Elle a eu en fait un désaccord avec le directeur de cette fédération. Elle ne veut pas en dire plus. Mais elle continue à rester très active sur les réseaux sociaux. Elle compte 4000 abonnés sur Twitter, 6000 sur sa page Facebook.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme. Et on a même posté sur son mur Facebook un drapeau de l'État islamique de la part d'une association qui soutient le terrorisme.
Faïza Ben Mohamed et Amir sont-elles deux femmes prises en étau dans une société où il faut choisir son camp, jeune mère de famille marseillaise ?
Oui, mais Amida n'est pas seule. Ces jeunes femmes, on les entend peu. Dans son appartement en plein centre-ville, Amida attend la visite de l'une de ses meilleures amies, Sabrina.
Ah, mais c'est Sabrina, ça !
Bonjour !
Salut !
Bonjour !
Que tu es belle avec tes cheveux qui sortent de ton voile, mais t'as pas honte ?
Ils étaient dehors comment ? Bon, ben tant pis, ben voilà, je suis prête à tout enlever. Ne me juge pas, s'il te plaît.
Merci. Elle est toujours bien habillée, voilà. Elle porte le voile, elle est toujours mieux habillée que moi.
Qu'est-ce que vous portez ? Alors, une tunique verte, kaki ?
Ouais, c'est ça, au niveau des genoux, avec un jean un peu fashion, troué, mes petites bottines à talons, une veste en cuir et mon foulard, voilà.
Vous êtes une amie d'Amida ?
C'est ça. Alors, Amida, moi, je l'ai connue voilée. Et arrivé à un moment donné dans ma vie, j'ai décidé de porter le voile. Et Amida, à ce moment-là, pensait à le retirer. Donc un jour, je suis allée chez elle en lui disant que c'est bon, j'étais déterminée à le porter. Sauf que je n'avais pas de vêtements adéquate en fait au port du voile. Elle avait une armoire avec deux portes, un côté nouvelle Amida sans voile et l'autre côté c'était les anciens vêtements d'Amida. Oui, elle m'a tout mis dans un gros sac et je suis rentrée chez moi en mode voilée, c'est ça, je ne l'avais pas encore portée. Et puis le lendemain, en fait, je m'étais voilée, ça y est.
Vous aviez quel âge ?
Presque 27 ans, en fait. Voilà, c'est ça.
Mettre le voile, c'est un combat.
Ouais. Bon, on est censé représenter la femme musulmane dans toute sa splendeur et sa pudeur, en fait. Mais voilà, on reste quand même des femmes, on a besoin de plaire aux hommes. Moi, personnellement, après, je ne sais pas pour les autres femmes.
Comment vous voyez justement la décision d'Amida de l'avoir enlevée ?
Je ne peux rien lui dire, en fait, parce que c'est elle, c'est sa relation à elle avec Dieu. C'est pas parce qu'elle retire le voile qu'elle est forcément mauvaise ou mécréante, tous les mots qu'on peut entendre de la part de musulmans aussi, surtout.
Vous avez déjà entendu ce genre de remarques ?
Une fois dans le bus, il y avait une dame, une jeune fille en fait, qui portait un voile, un jilbab, et moi je le portais en turban.
Un voile noir ou...
Tous mes voiles sont colorés, j'ai pas de voile noir, ça me va pas du tout au teint, donc je mets pas de voile noir. Bon, je suis pas non plus en rose fuchsia ou jaune fluo, c'est vraiment des couleurs bleu pastel, rose pastel. Elle m'a interpellée en fait, elle était en face de moi en me disant, tu sais, ton hijab, c'est pas un hijab ma sœur, tu devrais te couvrir autrement. Mais voilà, je l'ai un petit peu recalée en lui disant, ça ne te regarde pas, j'ai envie de le porter comme ça. Et bon, elle a un petit peu mal pris en me disant que c'était un rappel.
Et rappel, ça veut dire rappel à la religion, en fait ?
Rappeler à la personne un principe de l'islam qu'on se doit de respecter. Peut-être que son intention était vraiment de me conseiller par bienveillance en se disant, voilà, c'est ma sœur, c'est ma co-religionnaire, je vais peut-être lui donner un conseil. C'est possible. Et une fois, une dame m'a retiré mon voile, m'a arraché mon voile dans un bus. Et retirez-moi ça, ici on est en France. J'étais obligée de la frapper pour qu'elle me lâche, en fait. Parce que sinon, elle ne me lâchait pas. Elle m'étranglait avec mon foulard arraché à l'arrière.
Et c'était une femme de quel âge, environ ?
Pas beaucoup plus âgée que moi. Elle devait avoir 35 ans, j'en avais 27. C'était au début de mon voile. On est entre deux chaises, pour ne pas dire le mot exact. D'un côté, on dira qu'il ne faut pas se voiler, que nous sommes soumises, etc. Et d'un autre côté, de la part de certaines personnes, on nous dira qu'on est trop libérée, en fait. La femme libérée, c'est la fille voilée qui va avoir des amis garçons. Par exemple, je sais que j'avais été critiquée par une personne, en fait, juste parce que je mettais des photos sur Facebook, des photos de moi.
Des photos de vous voilées ?
Oui.
Protégez-vous du regard des autres, mes sœurs, c'est ce discours-là.
Ouais, voilà, c'est ça.
Pas s'exposer au regard de l'autre, parce que sur Facebook, c'est une vitrine, et puis si on se montre bien jolie sur une photo, même avec le voile, on attire les gens, on attire le regard.
On sait ce qu'on fait, en fait. Il y a des personnes apparemment irréprochables pour qui c'est très grave, qui vont donner une importance à tout ce qui va être visible, en fait. En grande majorité, ce sont des femmes. C'est un fléau, il y a un réel problème au sein de la communauté musulmane elle-même. Mais le réel problème que j'ai aujourd'hui, c'est la société. Quand j'ai besoin de travailler et que je ne trouve pas de travail à cause de mon foulard, là oui, ça me touche vraiment. Pourquoi je devrais, aujourd'hui, à 30 ans, avec les études que j'ai faites, me retrouver sans emploi ? Et on se retrouve entre nous, au final. Parce qu'on va se retrouver à travailler pour des sociétés musulmanes, pour des magazines musulmans. Par exemple, là, je travaille pour Ali Magazine, dans un magazine musulman. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai fait des études en école de commerce. J'ai des compétences en web marketing et en communication. J'ai même postulé pour un poste de téléopératrice, donc télévendeuse. Ben, même là, on ne m'a pas répondu, quoi. Ça m'atteint vraiment.
Sabrina a envoyé un grand nombre de candidatures pour des emplois, Charlie Dupuyot.
Oui, une cinquantaine. Alors, aucune réponse, hein, même pour refuser sa candidature. Il est difficile de prouver qu'il s'agit de discrimination. Est-ce vraiment la faute de son foulard ? On ne le saura en fait jamais. En tout cas, elle vient d'acheter un billet d'avion sans retour pour Dubaï, dans l'espoir d'y décrocher un contrat, une expérience professionnelle et pour pouvoir rentrer, pourquoi pas, plus sereine et plus sûre d'elle en France.
Les voisins, vous restez avec nous. Juste après le flash, nous parlerons de ces femmes françaises et musulmanes au cœur du débat politique et pourtant privées de parole. Cette parole, elles veulent la saisir elles-mêmes en créant leurs propres médias, en s'adressant directement à certains hommes politiques et en lançant leurs associations. Retour dans 3 minutes.
Milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Françaises et musulmanes, suite de votre reportage, Charlie Dupio. Ces femmes françaises et musulmanes, majorité silencieuse dont l'intime est sans cesse jetée sur la place publique, tiraillées entre une frange de leur communauté qui leur reproche de ne pas être de parfaites musulmanes et une société française qui leur fait presque sentir qu'elles le seraient trop. Ces jeunes femmes n'ont pas le charisme d'une Dounia Bouzard ou le culot d'une Zineb El Razoui de Charlie Hebdo. On ne les entend pas. Et si aujourd'hui on leur donnait la parole au lieu de parler d'elles ?
Mon sujet, c'est l'ensemble des femmes musulmanes qui vivent en France aujourd'hui et qui sont sous l'emprise grandissante de groupes salafistes qui se sont mis en situation de dire aux musulmans de France voilà qui est un bon musulman et qui n'est pas un bon musulman. Or, ces tenues, elles révèlent l'enfermement du corps des femmes.
Allah subhanahu wa ta'ala dit « Les hommes ont autorité sur les femmes. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. » Voilà la femme vertueuse. La femme, elle ne sort de chez elle que par la permission de son mari.
Je combats cet archaïsme qui consiste à considérer que les femmes sont impures et que leur corps est par définition, quand on le voit, une provocation aux hommes et à la société.
Et bien qu'elle sache que les anges la maudissent toute la nuit dans le cas où elle se refuse à son mari sans raison valable. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam.
Les voiles, mes amis, hier encore exceptionnels, se sont multipliés. Leur nombre, on peut le dire, a même explosé. Avec la volonté d'un affichage qui n'a rien d'innocent, utilisé comme une arme politique.
Peu importe ce que nous pensons, au nom de la loi 1905, elle est libre de porter le foulard islamique. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui, dans notre pays aujourd'hui, pensent finalement que dans la République, un bon musulman, ce serait un musulman qui n'est pas musulman.
Toutes les religions posent un problème dans la relation d'égalité homme-femme. Je dis à tous les chefs religieux qu'il n'y a pas de consigne, ni de Mahomet, ni de Jésus, ni de Moïse concernant les tenues de bain. Alors ça commence à bien faire. Je ne suis pas du tout persuadé que Dieu soit préoccupé des poils et des cheveux.
En France, il n'y a pas des horaires dans les piscines pour les femmes et des horaires pour les hommes. En France, les jeunes filles, elles vont à l'école non voilées.
Les vêtements, c'est la traduction de la pudeur dans une culture donnée. Mais il n'y a pas d'habit canonique. Il y a autant de foulards que de perceptions musulmanes. On n'a pas dicté à la femme comment il doit être pudique.
Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. C'est ça Marianne. C'est ça ce que nous devons, nous, toujours porter.
Charlie Dupio, ce sont pêle-mêle des paroles de politiques de tous bords et d'imams.
Oui, vous avez notamment entendu le prêche de l'imam du Bourget, Nader Abou Anas, très connu pour ses propos misogynes qu'il propage dans des vidéos YouTube visionnées par 50 000 personnes, parfois même 200 000 personnes. Mais aussi, vous avez entendu Laurence Rossignol, ministre des Droits des Femmes, Benoît Hamon, Manuel Valls, alors Premier ministre. Manuel Valls qui a même débattu via le New York Times en septembre dernier. Ce quotidien américain avait publié les plaintes de femmes françaises voilées. Elles dénonçaient les regards menaçants, la discrimination à l'embauche, bref, le traitement qui leur est réservé en France. Réaction de Manuel Valls à cet article, il y a dit « Il propage une vision ultra rigoriste de l'islam qui représente une minorité de femmes musulmanes en France ». Eh bien, l'une des interviewées a répondu par médias interposés. Elle s'appelle Saïma Ashraf, elle a 39 ans, née au Pakistan, arrivée en France à 3 mois. Elle est devenue maire adjointe d'un arrondissement de l'Est de Londres, ce qui est possible pour un étranger en Angleterre. Elle s'est adressée à Manuel Valls en lui disant « Jamais je n'aurais pu accomplir cela en France ». Aujourd'hui, Saïma Ashraf ne passe pas inaperçue dans sa mairie de Barking et Dagenham. Voile beige, stiletto et cils pailletés.
Alors ici, c'est tout ce qui est le service de stratégie. Donc, les gens qui travaillent pour moi, ils sont là. Vous êtes dans mon bureau.
Ah là, c'est une photo de vous avec le maire de Londres.
Le maire de Londres, Sadiq Khan, qui était venu il y a un mois.
Bah, c'est une photo de vous avec la reine.
Voilà.
Vous lui serrez la main.
Voilà. Quand on l'a reçu, c'est quand même impressionnant, voilà, de passer la journée avec la reine. J'ai été élue la première fois en 2010. Et en 2014, j'étais réélue. Je fais partie du Parti Socialiste Travailleur ici.
Vous avez grandi en France?
Oui, j'ai grandi en France jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc je me suis mariée, mariage arrangé. J'ai dû partir habiter au Pakistan.
Parce que votre mari était aussi d'origine pakistanaise?
D'origine pakistanaise, mais irlandais de naissance. Bah, finalement, on est reparti après 6 ans parce que ses parents à lui avaient déménagé ici à Londres. Il les a suivis. Et on est arrivé ici à Londres. Et en plus de ça, j'avais un mari qui était violent. Il nous a déposés dans un centre pour sans-abri. Et donc, j'ai habité dans ce centre sans-abri pendant 10 mois, presque un an, quoi. Là, je suis partie dans une petite dépression qui a duré quelques mois. Et j'avais 3 enfants et j'étais divorcée. Je savais rien, j'arrivais pas à dire ce que je voulais dire et je comprenais même pas ce que les gens m'ont raconté.
Aujourd'hui, vous êtes totalement bilingue en anglais.
Oui, je pense. Et après que j'ai eu mon appartement, j'ai été mise aux allocations. Bon, comme tout le monde, je crois, j'ai eu un divorce quand même assez difficile. J'ai demandé aux membres du Parlement, Margaret Hodge, si elle pouvait me faire une lettre pour m'aider par rapport à garder mes enfants avec moi. Et elle me dit, bah, écoute, joins le parti et puis commence à faire des choses avec moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc j'ai joint le parti politique.
Donc le parti des travaillistes à gauche sur l'échiquier politique.
Voilà. Il y a plein de choses à faire. Et elle me dit, un jour, tu devrais te présenter.
Et vous avez été naturalisée, britannique?
Oui, récemment. C'est récent. Je suis française de toute façon, peu importe. Mais ce pays m'a donné beaucoup. Donc je suis British. Bah on va là où on va faire le bol au manifesto.
Donc vous allez parler de cette consultation que vous avez menée auprès des habitants,
oui,
et du manifeste fait à partir de cette consultation pour l'arrondissement.
Pour les 20 prochaines années.
Et là, la conférence va avoir lieu avec combien de personnes?
On espère avoir au moins 100 personnes.
Donc vous allez vous exprimer devant tous ces gens?
Oui, j'essaierai de faire mon mieux.
Ça commence.
Voilà.
It's my pleasure now to introduce Councillor Ashraf to you. Councillor Simon Ashraf.
Can everyone hear me? Yeah? I would like to say good afternoon to everyone. So early this year, we had a Growth Commission reported to us, which was called No One Left Behind. The name itself says a lot.
Aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre parcours?
Je suis venue de rien, en fait. J'ai connu la pauvreté, j'ai connu être sans abri, j'ai connu être une personne qui parlait même pas le langage. Et je suis fière de moi parce que, en étant une femme musulmane, je suis où je suis aujourd'hui. J'aurais jamais pu être où là où je suis en restant en France. Combien de politiciens vous voyez avec le foulard? Il aurait fallu que j'enlève mon foulard, en fait. Et j'ai eu beaucoup de femmes, beaucoup qui m'ont demandé comment s'installer en Angleterre. Ce qu'il y a, c'est que si tout le monde part, c'est qui va régler le problème, en fait? Présentez-vous. Peut-être, pourquoi pas, aux élections. C'est pour ça que je dis aux femmes là-bas de faire entendre leur voix. Le fait, c'est de, je dirais un seul mot, c'est d'être débattante, en fait. De se battre pour vos droits. Et si on commence pas à faire ça, je vois pas comment vous allez changer les choses en France.
Et Saïma Ashraf, française, voilée, maire adjointe d'un arrondissement de l'Est de Londres, n'envisage pas de revenir en France. En tout cas, pas dans le futur proche, Charlie Dupieux.
Non, d'autant que ses 3 filles de 14, 16 et 19 ans sont heureuses en Angleterre. Elles portent le voile de toutes les couleurs et leur mère se défend de toute ingérence. Celle qui a 19 ans rêve d'être ambulancière, mais elle ne pense pas pouvoir le devenir en France avec un voile.
Et en politique, quelle place pour les femmes voilées en France, rien d'illégal?
Non, mais elles sont rares, vous vous en doutez. En 2010, une candidate voilée s'était présentée à des élections régionales sous les couleurs du NPA, le nouveau parti anticapitaliste à extrême gauche. L'affaire avait fait grand bruit à l'époque. Il existe aussi une conseillère municipale voilée à Argenteuil, en région parisienne, mais elle se compte sur les doigts d'une main. Elles sont en revanche nombreuses dans le milieu associatif. Bouchra Azouz, par exemple, a été secrétaire générale du mouvement Ni Pute Ni Insoumise, présidente de l'association Atelier du Féminisme Populaire. Elle vient de publier un livre, Fille de Daronne et fière de l'être, un livre sur son histoire, elle qui s'est voilée en 87, encore lycéenne.
À cette époque, il se trouve que c'était un peu le début de tous ces mouvements de retour aux religieux dans nos pays d'origine, où on a eu beaucoup d'étudiants venant du Maghreb qui étaient eux-mêmes porteurs de cette idéologie. On a été attirés parce que ça nous parlait. Nous qui sommes les enfants issus de l'immigration postcoloniale, on se disait finalement, si la société ne nous reconnaît pas comme des Français, on essaye de s'accrocher à quelque chose. Et il se trouve que les gens de ma génération, on a été beaucoup à se tourner vers cet islam des traditions. Et le voile a fait partie de la panoplie pour les filles. C'était aussi une manière de dire aux parents, votre manière de faire n'est pas du tout conforme. La religion n'impose pas, on n'impose pas à une fille un mariage, c'est contraire aux religions. Donc en fait, on essayait aussi tant bien que mal de retourner contre nos parents la religion pour s'opposer à des traditions.
Notamment celle du mariage arrangé.
Moi, la plupart de mes copines d'enfance, elles étaient dans ce cas-là, en fait. Et c'est vrai que la première fois que j'ai porté le voile, et je partais en général le dimanche matin faire des courses avec mon père, et quand je suis arrivée dans la voiture avec mon foulard noir, en plus je m'habillais tout en noir, il m'a regardée, il m'a dit « Mais tu vas où comme ça ?» Je lui dis « J'ai avec toi, papa ?» Il me dit « Ah non, mais pas du tout, tu descends de ma voiture, tu rentres à la maison. Si tu veux t'habiller comme ça, c'est pour rester à la maison, donc retourne à la maison.
» Ensuite, vous vous mariez, et vous décidez à un moment d'arrêter de porter le voile. Pourquoi ? Comment arrivez-vous à cette décision-là ?
Le pourquoi, c'est qu'à un moment donné, quand on envoie un signal, c'est-à-dire porter une tenue qui est presque un uniforme, on va dire, c'est que ça représente quelque chose. Et en grandissant, en évoluant aussi dans ma spiritualité, je me suis rendu compte qu'on s'attachait beaucoup trop à la forme et pas suffisamment au fond. Et d'ailleurs, tant qu'on n'aura pas des responsables religieux qui auront le courage de se positionner, comme le font certains, par rapport au voile, en disant « il faut arrêter avec cette injonction, avec cet interdit ». Dans la religion, il y a des dizaines d'interdits qui ne sont pas respectés, qui sont foulés aux pieds tous les jours par les musulmans. Bizarrement, c'est uniquement sur la question du voile que tout le monde se concentre. Je trouve que c'est complètement aberrant de vouloir nous ramener à une manière d'être du 7e siècle. On est encore dans des guerres de chapelle, qui va prendre le leadership de la fondation de l'islam de France. Voilà, on est dans des guéguerres. Je pense que si les femmes prenaient plus de part, et d'ailleurs il faut la prendre, c'est presque une bataille armée qu'il faut avoir avec les hommes parce qu'ils lâcheront rien de ce territoire-là. Et je pense que c'est à nous de nous battre et de donner aussi notre vision.
Qu'est-ce que vous aimeriez montrer ? Là, on s'adresse aux jeunes femmes françaises et musulmanes. Qu'est-ce que vous aimeriez incarner ?
Finalement, si de leur dire « faites ce que vous voulez » et qu'elles vous rétorquent « oui, mais moi ce que je veux, c'est porter le voile », je dis juste « ayez conscience un peu de tout ce que ça a comme conséquence, à la fois sur nous, sur cette religion qui est la mienne et qui, je pense, mérite un peu d'être mise dans l'ombre. »
Donc en gros, vous leur conseillez d'être un peu plus discrète.
Oui, parce que je pense que c'est le fondement de notre religion, c'est la discrétion, c'est l'intériorité, c'est la spiritualité, c'est le fond plus que la forme. Je trouve qu'on manque d'intelligence. Avant même de se fermer des portes professionnelles, on s'empêche de grandir, on s'empêche de cultiver son esprit critique, on s'empêche de s'interroger. On est figé dans des vérités à 15 ans et on n'en sort pas jusqu'à la fin de sa vie. Ça me pose problème. Moi, ça m'embête de dire que j'ai envie de montrer un exemple, fût-il modeste. Néanmoins, j'ai écrit un livre pour témoigner. Je veux aussi montrer, je trouve qu'on n'a pas suffisamment, justement, de personnes qui sont passées par ce cheminement-là, du voile, d'une quête à la fois de sa citoyenneté, de qu'est-ce que c'est être musulmane et républicaine. Voilà, moi, je livre mon modeste témoignage en espérant aussi que toutes ces filles qui sont traversées par ces problématiques puissent se dire à un moment donné, j'ai rien besoin de montrer aux autres, j'ai pas besoin de prouver que je suis une fille bien.
Mais justement, vous parlez dans votre livre d'injonction à porter le voile, vous dites ce sont aussi par les femmes que passe la doctrine.
Elles s'emploient à être la garante des traditions et c'est vrai que ça passe par les femmes. Moi, à mon époque, le contrôle de la virginité, tout ça passait par les femmes. Donc on voit bien qu'elles sont aussi au service d'un système qui les oppresse. Je pense qu'il faut s'arrêter avec tout ça et puis vivre sa vie comme on l'entend. Moi, j'ai réussi à trouver un point d'équilibre. Finalement, je me suis dit non, j'accepte d'être une entité hybride, d'être de culture arabo-musulmane et en même temps républicaine. C'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire même de France. J'accepte d'être ça.
Voilà, ça c'est le message d'une grande sœur aux jeunes générations françaises musulmanes.
Oui, des jeunes générations qui à 20 ans peuvent se tourner vers le féminisme musulman, un courant qui a longtemps été contesté, qui est apparu surtout en France après 2004, hein, l'année de l'adoption de la loi qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Elles sont encore peu nombreuses à étudier, à analyser ce mouvement hétéroclite.
Oui, très fourre-tout hein, d'ailleurs.
Oui, oui, on a beaucoup de courants différents et parmi elles, Malika Hamidi, sociologue, elle a fait une thèse sur le féminisme musulman en Europe. Je l'ai rencontrée à Bruxelles où elle réalise un travail de plaidoyer au niveau européen sur la cause des femmes musulmanes sur le continent.
On est face aujourd'hui à une génération de femmes musulmanes, voire même qui aujourd'hui s'affirment comme étant féministes et musulmanes, qui sont en train de déconstruire un certain nombre de stéréotypes, de préjugés de part et d'autre. Donc elles se battent contre une tendance exclusiviste laïcarde en France, et puis une certaine tendance aujourd'hui qui ont une interprétation plutôt misogyne, une interprétation en tout cas qui reste minoritaire mais qui existe. Et donc elles essayent un petit peu de définir cette troisième voie, de définir, de construire une identité hybride à la croisée de la religiosité et du féminisme. Elles viennent avec un discours politique construit, une pensée articulée qui dérange aujourd'hui de part et d'autre.
Certaines hésitent parfois à retirer le voile par peur des critiques.
Oui, je pense qu'il peut y avoir de la pression. Je pense qu'effectivement, que ce soit au niveau familial ou même entre amis, il peut y avoir une forme de pression. Pas d'intimidation, mais de jeunes filles qui seraient mal à l'aise de retirer leur foulard. Je pense que ça reste très minoritaire. Aujourd'hui, ce que l'on voit dans les réseaux féministes ou féminins musulmans, ce sont des femmes plurielles, voilées ou pas voilées. C'est cette génération de femmes aujourd'hui qui émergent sur le terrain, hein, maintenant depuis une quinzaine d'années, qui sent que cette identité de femme musulmane, citoyenne européenne, voire féministe, peut parfaitement s'articuler. On n'a pas besoin de divorcer de sa foi pour être une bonne citoyenne musulmane. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi une lecture minoritaire plutôt misogyne du Coran que ces femmes-là sont en train de dénoncer par le biais de relecture des textes. Il faut saluer les travaux de ces intellectuels-là.
Vous étudiez le féminisme musulman. Et qu'est-ce que ça veut dire alors se revendiquer féministe musulmane ?
Donc un projet politique pour aller vers cette égalité entre les genres, pour lutter contre toutes les formes de domination, d'où qu'elles viennent, des hommes ou des institutions. Parce qu'il ne faut pas oublier que le concept de féminisme musulman a été considéré comme un oxymore, était antinomique. Pourquoi ? Parce que l'islam serait l'antithèse des valeurs que les féministes ont voulu défendre. On a expérimenté ce rapport de domination de la féministe dite blanche à l'endroit de la femme musulmane ou de couleur, etc. Donc quand vous arrivez dans une réunion et que vous dites que vous défendez les droits des femmes et qu'on vous voit avec un foulard, eh ben forcément on fait des... À l'époque, hein, on parle bien à l'époque, il y a 10-15 ans, c'est caricatural ce que je vais dire, mais ce qu'on nous renvoyait en pleine figure, c'était « mais comment tu peux parler de libération de la femme alors que toi-même tu es porteuse du symbole d'oppression des femmes ?» Moi, il m'est même arrivé d'arriver dans des réunions et de voir des femmes se lever et de quitter la réunion.
Parce que vous portez le voile.
Parce que je portais le voile. Donc il a fallu déconstruire toute cette symbolique. Je ne dis pas que le problème est réglé. On ne peut pas parler d'un mouvement féministe musulman aujourd'hui en Europe. Par contre, il y a des femmes ici et là qui s'expriment en tant que féministes et qui aujourd'hui utilisent vraiment les médias, les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix. Et ça fait peur. On était habitué à voir des femmes qui étaient voilées, qui rasaient les murs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On est face à une génération de femmes qui sont éduquées, revendicatives et qui ont une culture politique. Et des femmes qui résistent.
Des femmes qui résistent, mais quelle forme prend au juste cette résistance, Charlie Dupiot ?
Souvent, il s'agit d'associations qui sont menées par des jeunes femmes, encore étudiantes ou entrepreneurs, souvent qui portent le voile ou pas d'ailleurs, des profils divers, mais qui représentent quand même une certaine élite. Une association fait notamment parler d'elle, elle s'appelle La Lab, elle a été cofondée en 2014 par deux jeunes femmes amies, Justine Devillaine, qui se définit comme athée, et Sarah Zouak, musulmane. musulmane, elle. Aujourd'hui, la LAB, c'est seulement 200 bénévoles, mais l'association entend bien grandir. Les deux cofondatrices ont réalisé une série de documentaires sur des femmes musulmanes inspirantes dans 5 pays du monde, pas encore en France. Des documentaires qu'elles projettent dans des écoles ou dans des centres culturels dans toute la France. Je me suis rendue à l'une de leurs projections parisiennes à leur rencontre.
Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. On parle de femmes musulmanes à longueur de journée, mais vraiment tous les jours. Ça fait la une des journaux à peu près tout le temps. Mais c'est jamais en fait les. Bah, c'est jamais nous-mêmes qui parlons quoi.
Alors donc je suis Sarah Zouag, j'ai 27 ans et je suis donc la cofondatrice de l'association La Lab qui lutte contre les préjugés sur les femmes musulmanes. Donc la mission première c'est clairement de lutter contre les préjugés que subissent les femmes musulmanes et malheureusement c'est pas souvent pris en compte aussi bien par les associations féministes classiques ou les associations antiracistes. Quand je vois que la majorité des associations féministes par exemple sont contre le voile, bah, moi ça me fait bien rigoler, je me dis mais à quel moment elles sont en train de nous expliquer comment chaque femme pourrait être ce qu'elle veut être, comment on doit lutter contre cette oppression patriarcale qu'on vit. Bah, en fait elles reproduisent exactement le même schéma d'oppression mais avec d'autres femmes.
Et pourtant vous n'êtes pas voilée.
Non, moi je suis pas voilée. Pour moi c'est profondément choquant et c'est comme ça que d'ailleurs est né mon féminisme, parce que j'avais une grande féministe qui m'avait dit exactement ce même discours, qui m'expliquait que non Sarah, ta religion sera forcément un obstacle à ton émancipation. Voilà, on n'en peut plus que ce soit toujours d'autres personnes qui parlent à notre place, aussi bien dans des plateaux télé où on se retrouve souvent avec voilà, des hommes blancs de plus de 60 ans qui parlent à notre place et qui nous expliquent comment mener notre vie, comment réfléchir ou autre.
Vous, quels propos, quelles déclarations politiques vous ont le plus marqué, choqué ?
Ceux qui m'ont, moi, particulièrement touchée, qui ont été très durs pour moi, c'était clairement les propos des politiques de gauche. C'est vrai que j'avais tellement d'espoir quand j'ai vu la gauche et qu'en fait, assez rapidement, on a compris que c'était pas du tout nos alliés. Quand je vois Laurence Rossignol, ministre des droits des femmes, qui comparait les femmes qui portent le foulard à des nègres américains qui sont pour l'esclavage. C'est fou comment en fait on nous exclut de la société. Enfin, on est française en fait, et à un moment il va falloir l'accepter, hein. On est française et on est aussi musulmane, et c'est possible en fait de juste d'allier les deux quoi. Et on va plus se laisser faire, on va faire entendre nos voix de plus en plus fort. On l'a vu par exemple avec Attika, l'une de nos bénévoles qui par exemple a participé à l'émission de France 2 lors de l'émission politique avec Manuel Valls.
Attika Trabelsi, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes jeune diplômée de l'école normale supérieure, vous êtes aussi entrepreneur, vous avez créé une entreprise de commerce en ligne autour de l'artisanat marocain. Vous vous dites à la fois musulmane et féministe.
Exactement.
Je vous laisse parler à Manuel Valls qui est là.
Je ne sais pas si vous en êtes conscient monsieur Valls, mais en tant que représentant de l'État, vous légitimez des discours qui engendrent des violences à mon égard. C'est une somme de petites agressions et ça devient fatigant. Notamment lorsque j'arrive devant une banque et que l'on m'explique que je ne peux pas y rentrer en raison de mon voile. J'aimerais que mon histoire soit unique. Les expériences semblables à la mienne se multiplient. Et je pense notamment aux membres de mon association, comme Maïssa, à qui un professeur à l'université a demandé de quitter l'amphithéâtre, ou à Hawa et Farah, à qui on a expliqué qu'elle ne pourrait pas devenir médecin ou journaliste. Ayez conscience, monsieur, que des rêves sont brisés et en fait des talents français sont gâchés.
Moi, je vais vous parler très honnêtement et très franchement. Je m'inquiète. Je m'inquiète d'une mode qui est, en effet, celle d'un voile revendiqué. Vous faites un choix. Eh bien, je le respecte. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette idée que les cheveux, que le visage, que le corps d'une femme serait impudique ?
Ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque vous parlez de la femme en général, vous ne m'incluez jamais. En fait, lorsque je vous écoute, je ne me reconnais pas en votre message.
Notre corps est tellement politique aujourd'hui, quoi. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est devenu normal de nous expliquer voilà, comment s'habiller, comment vivre. Mais c'est encore difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des médias s'intéressent à notre projet, ça me fait toujours doucement rire les remarques. Par exemple, quand il y avait quand même une très grande radio en France à qui j'avais envoyé un bout du teaser du documentaire Women's Censure, qui m'avait dit « Ah là là, la femme que vous avez choisie, elle parle trop bien français, les auditeurs ne vont pas comprendre que c'est une femme musulmane. » Franchement, toutes les interviews finissent par « Et qu'est-ce que pensent vos pères de votre féminisme ou autre ?» C'est fou en fait, ces genres de questions, on ne les pose à aucun autre entrepreneur, mais moi, parce que je suis une jeune femme, arabe, musulmane, on a eu affaire du coup à une journaliste qui était revenue nous voir en nous disant « Je suis désolée, mais je réalise que dans notre banque image, on n'a que des femmes en burqa ou des femmes voilées qui ont l'air hyper tristes tout en noir. » Montrer la réalité, montrer cette pluralité, on le fait déjà grâce à notre magazine en ligne parce qu'il y a un moment où voilà, quand les gens parlent sans cesse à notre place et qu'on nous donne jamais la parole, bah, il y a un moment où il faut juste créer ses propres outils et voilà, et nos articles sont lus aujourd'hui par plus de 100 000 personnes à chaque fois. On a fait une cinquantaine de projections débats partout en France, plus de 5 000 personnes sont déjà venues. Voilà, on se réapproprie complètement notre récit et il va falloir un moment juste nous écouter quoi.
Les écouter, et elles ne sont pas les seules à vouloir faire changer le regard sur les femmes françaises et musulmanes. Il faut, et ce sont leurs mots, se battre sur tous les fronts. En interne d'abord, il existe plusieurs collectifs de femmes dans les mosquées qui souhaitent, Sarah Zouak en parlait, conquérir l'égalité avec les hommes, y compris dans les salles de prière, et puis évidemment gagner leur place dans le débat politique sans être récupérées. L'association Lalab a d'ailleurs été approchée par plusieurs candidats à la présidentielle, à droite, à gauche. On leur a proposé de les rencontrer, mais les responsables ne sont pas dupes. Un nouveau récit est en train de s'inventer, mené par ces jeunes femmes qui entendent bien, pour l'essentiel, rester vivre en France. C'était un reportage de Charlie Dupiot, à la réalisation Steven Elsley, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, spécial Saint-Valentin. Ça sera l'occasion pour vous, les voisins, de faire vos déclarations d'amour en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. Profitez-en, c'est gratuit.
RFI, la sélection du mois.